France Culture, l'esprit d'ouverture.
Nouveau sur France Culture, la transition se conjugue au quotidien avec Hervé Gardette.
Réchauffement climatique, épuisement des ressources, érosion de la biodiversité, nous savons tous désormais à quoi nous sommes confrontés. Mais nous ne savons pas toujours quoi faire, ni comment. Pourtant, nos modes de vie sont en train d'être bouleversés par ce basculement. Tous les jours, dans les matins de France Culture à 8h45, je vous livre mes observations, mes réflexions et je vous fais part de mes lectures dans la transition.
Nouveau sur France Culture, la transition de lundi à vendredi à 8h45 dans les matins et sur franceculture.fr.
Coder, décoder. Jusqu'au 4 novembre, les Utopiales, Festival international de science-fiction à Nantes, déchiffrent les structures cachées de la création, de l'information et du langage. Littérature, BD, cinéma, jeux vidéo. Rendez-vous vendredi 1er novembre avec les émissions de France Culture, La Grande Table, Le Rayon BD, Mauvais Genre, La Méthode et La Conversation Scientifique. En public à la Cité des Congrès de midi à 18h30, réservation sur utopial.org, plus d'infos, franceculture.fr. France Culture, 6h-7h, les petits matins. Tout de suite, les titres de l'actualité, Clara Lecoq-Réal.
Bonjour à tous. Et l'on commence par cette visite un mois après l'incendie de l'usine Lubrizol classée Seveso. Emmanuel Macron était hier soir à Rouen. Face au scepticisme des habitants, le président de la République y a salué la compétence, le sang-froid des services de l'État et le courage des pompiers. Il annonce des indemnités à partir du 18 novembre prochain pour les agriculteurs notamment et les commerçants. Il promet aussi un événement diplomatique international organisé dès l'année prochaine à Rouen pour redorer l'image de la ville, dit-il. L'auteur présumé de l'attaque de la mosquée de Bayonne est mis en examen pour tentative d'assassinat. Claude Cinquet risque la réclusion criminelle à perpétuité. La justice estime toutefois que l'octogénaire souffre d'une altération partielle de son discernement. Le parquet national antiterroriste ne va donc pas être saisi. Comme pour la RATP, le ministre des Transports, Jean-Baptiste Djebbari, ainsi que Jean-Paul Delevoye, chargé des retraites, vont rencontrer aujourd'hui plusieurs syndicats de cheminots à la SNCF. Tous doivent discuter de la fusion de leur régime spécial de retraite dans un système universel. Discussion qui s'annonce houleuse, en pleine grève sur l'axe Atlantique, et alors qu'une journée de mobilisation nationale se prépare pour le 5 décembre prochain. Le mariage PSA Fiat Chrysler est sur la bonne voie. En tout cas, le conseil d'administration du français PSA a donné hier soir son accord. Les représentants syndicaux sont convoqués ce matin. Il s'agit d'une opération à 50 milliards de dollars pour constituer ce qui serait alors le 4e groupe automobile mondial. Le gouvernement chilien renonce à l'organisation de la COP25, la conférence de l'ONU sur le climat. Elle était prévue en décembre prochain. Le président chilien Sébastien Piñera l'annonce en pleine contestation sociale dans le pays, notamment sur le pouvoir d'achat.
Informer, témoigner, décrypter, les matins de France Culture, Guillaume Erner.
Celui qui n'a pas rêvé en lisant Le Seigneur des Anneaux n'a probablement jamais dormi. Alors ce jeudi, on évoque l'œuvre de l'immense Tolkien en compagnie de Vincent Ferré et de Frédéric Manfrin, les deux commissaires de l'exposition Tolkien Voyage en Terre de Milieu à la Bibliothèque Nationale de France.
Les matins de France Culture, ce jeudi, dès 7h et sur franceculture.fr.
Il est 6h03, vous écoutez France Culture et c'est l'heure de retrouver Toufik Hakem.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus dans le Réveil culturel. Tous les jeudis, on traite de l'actualité musicale dans ce magazine de pop culture. Et aujourd'hui, je reçois la chanteuse Amel Metlouti à l'occasion de la sortie de son album « Everywhere We Looked Was Burning ». Installée à New York depuis quelques années, celle qui a accompagné avec ses chants et sa musique la révolution du jasmin de son pays d'origine, la Tunisie, chante désormais aussi en anglais et élargit son combat pour une vie meilleure en incluant les enjeux écologiques. Ce réveil culturel en compagnie d'Amel Metlouti a été préparé avec Corinne Amar à la coordination, Christine Robert à la réalisation et Alain Joubert à la prise de son.
Le réveil culturel. Jeudi, musique.
Encore de révolution, Emmaël Metlouty, bonjour.
Bonjour.
De quoi vous parlez dans ce morceau extrait de votre dernier album, Everywhere We Looked Was Burning, que je traduirai par Partout où nos yeux se posent, ça brûle.
Exactement.
Comme un cri d'alarme. Et dans cette chanson, vous parlez de quoi?
Donc cette chanson s'appelle Rescuer, qui veut dire le sauveur. Et c'est une chanson qui m'est venue vraiment d'entrée. C'est assez étonnant pour moi parce que c'est comme s'il y avait une idée qui s'était écrite et puis qui tout d'un coup ressort à travers le stylo sur le papier. Et en fait, j'ai réalisé que on est dans une phase où je trouve que nos émotions et nos sens sont pratiquement ils sont en voie de disparition. On est beaucoup moins sensibles les uns aux autres. On est vraiment de plus en plus centré sur soi. Les choses n'ont plus autant de valeur qu'avant. Donc c'est un peu un morceau comme une pointe d'aube salvatrice, une pointe d'aube qui pointe l'espoir.
Et c'est la première fois que vous chantez en anglais ou que vous consacrez tout votre album à la langue anglaise. C'est-à-dire que ça y est, vous vous êtes intégré à votre nouvelle vie new-yorkaise. Ça fait combien de temps que vous êtes installé à New York?
Mine de rien, ça va faire bientôt 5 ans.
Ouais, bah c'est peu, 5 ans.
Ah, c'est quand même un bon chapitre. Hein.
Ouais.
Bon, la moitié de ce chapitre a été consacrée à la naissance de ma petite. Mais
le fait d'écrire en anglais, est-ce que vous l'utilisiez l'anglais avant de vous installer à New York, Emmaël Metlouty?
Avant de m'installer à New York, alors l'anglais, c'est quand même pour revenir un peu aux sources, comme justement est le but de cet album. Quand j'ai commencé à chanter, mes premiers amours, c'était des chansons en anglais. Donc ma langue musicale maternelle, ma langue de chant maternelle, c'est l'anglais. Mais je m'en suis un peu éloignée pour essayer de chercher un chemin qui est vraiment à moi, pour essayer de chercher mon originalité, mon unicité. Et puis, ces dernières années, je me suis sentie prête. Je me suis sentie enfin complètement propriétaire de ma voix, d'une façon où je peux vraiment l'adapter à des langues différentes, tout en restant profondément moi-même.
Alors cet album, vous l'avez réalisé dans une forêt, c'est-à-dire loin de la grosse ville, loin de New York, pas loin de Woodstock. Je pense que là aussi, ce choix n'est pas innocent, Emmanuel Betlouti. Était-ce juste parce que vous vouliez faire entendre la nature, parce qu'on écoute tous les éléments de la nature dans votre disque, le vent, l'eau, le feu, ou est-ce aussi une manière de dire que votre combat écologique commence aussi par cette manière de choisir le lieu où on enregistre un disque?
Ben c'est exactement tout ça. J'ai réalisé de plus en plus que j'avais vraiment besoin de courir à la nature pour me préserver, pour me ressourcer et aussi pour ressentir en fait cette vulnérabilité, parce que j'adore me poser en face des montagnes ou en face de l'eau, parce que c'est des forces devant lesquelles on se sent vulnérable, devant lesquelles on se remet en question, et c'est ça en fait qui est aussi nécessaire à la création. Et après, d'une certaine manière, la nature, c'est devenu vraiment le fil rouge qui a habité, qui a hanté, qui a secoué cet album, en étant un personnage principal qui tient plusieurs rôles tout au fil des chansons, de la mère, la libératrice, mais aussi parfois la victime meurtrie et aussi parfois le tyran.
Voilà. Et quand vous parlez de ça, effectivement, on cherche, parce qu'on vous connaît à partir de votre engagement pour la révolution tunisienne, votre pays d'origine, Emmanuel Betlouti, on cherche une signification au mot en disant que c'est sans doute encore des propos engagés. Est-ce que vous vous considérez comme une artiste engagée ?
J'aime bien le mot « on cherche ». C'est vrai qu'on essaye toujours de me chercher, mais on ne me trouve pas forcément là où on m'attend.
Mais vous êtes bien tunisienne, vous avez bien chanté pour la révolution du jasmin.
Je suis bien tunisienne et puis j'explore ma tunisianité de manière beaucoup plus mature et beaucoup plus apaisée.
Depuis que vous avez quitté la Tunisie, c'est ça ?
Depuis que j'ai quitté la Tunisie, et puis surtout ces dernières années, j'ai trouvé que, je parlais justement d'identité, que à travers mes identités multiples, c'est comme ça que je m'identifie et c'est ça le genre de la musique que je fais.
Et s'il fallait résumer un peu votre parcours, Emmanuel Betlouti, votre initiation à la musique, ça commence dans quel environnement ?
Ça commence avec la musique classique de Beethoven, Vivaldi, Mozart, Tchaïkovski, chez mes parents à Tunis, depuis l'âge de 10 ans, je dirais. Voilà, on n'a pas été élevé dans un environnement arabe classique, mais j'écoutais Sidney Bechet, Mahalia Jackson, Louis Armstrong, puis beaucoup, beaucoup de musique classique, parfois du Chérimem ou du Marcel Khalifa, mais vraiment pas du tout
Donc des chanteurs engagés, ouais.
Voilà. Donc j'ai toujours été amenée à être dans la puissance de la musique, qui au-delà de la musique c'est de l'art, et dans la profondeur quoi du propos.
Vous avez eu un apprentissage en Tunisie en passant par le conservatoire par exemple, ou par un professeur qui vous aurait inculqué les bases pour jouer d'un instrument, Emmanuel Betlouti, ou d'un prof de chant?
Malheureusement, non. Mes parents n'étaient pas aussi encourageants. Alors, il y avait une institutrice qui m'invitait à chanter les comptines sur les strates pour les apprendre aux autres élèves. Donc, c'est la première personne qui avait quand même reconnu mes premiers talents quand j'avais 8 ans. Après ça, mon prof de chant, ça a été Céline Dion. Et ces chansons que j'écoutais avec beaucoup de soif, c'est vraiment là où j'ai vraiment appris à placer ma voix, à travailler toutes les nuances.
Est-ce que vous avez chanté, est-ce que vous avez eu une carrière avant ce printemps arabe, avant cette révolution du jasmin en Tunisie? Parce que c'est à partir de là qu'on entend parler de vous, par vos chants qui ont accompagné ce mouvement incroyable de mobilisation des Tunisiens contre le dictateur Ben Ali.
Oui, alors pour moi, donc ma carrière, elle a même commencé au début des années 2000 avec mon groupe de métal à la fac. Et du coup, c'était mon premier engagement et ma première façon de ressortir tout ce qui brûlait à l'intérieur de moi via du rock engagé ou même du rock gothique, de Rage Against the Machine à du rock un peu plus...
Avec des compositions originales ou c'était des reprises même?
C'était beaucoup de reprises. Mmh. On a fait quelques compositions qui ne sont pas restées.
Ouais.
Mais on était très très bons. C'était un groupe qui avait fait fureur à l'université à l'époque. Et puis, la phase que le monde a connue, elle a commencé en 2008, en fait. Pour moi, la révolution, elle est de 2004-2005. C'est là où j'ai commencé à écrire les premiers morceaux en arabe tunisien sur la liberté d'expression et sur la révolution. Et ensuite, 2008, où je suis arrivée à Paris, et j'ai vraiment commencé je suis vraiment devenue musicienne à temps plein à ce moment-là. Et de 2008 jusqu'à 2011, où j'ai écrit beaucoup de chansons sur les révolutionnaires tunisiens, sur les étudiants, sur notre quête.
Tous ces chants ont été repris avec vos slogans. Alors du coup, on a envie d'avoir votre avis sur ce qui se passe en Tunisie, cette élection présidentielle, ce nouveau président élu d'une manière démocratique, un fait suffisamment inédit dans le monde arabe pour le préciser. 72% des voix sont allées donc à Kais Saied. C'est comme ça que cet universitaire qu'on présente comme un universitaire conservateur. Que pensez-vous de cette élection, de la victoire, de l'arrivée de ce président à la tête de la Tunisie, Emel Metlouti?
Je pense que ce qu'on peut lire là-dedans, avant de juger ce qu'on peut pas encore totalement juger, c'est que les Tunisiens ont retrouvé l'espoir dans un candidat indépendant. Apparemment, un candidat qui insuffle une droiture que les Tunisiens ne connaissent pas à cause de tout l'historique de corruption, tout l'historique mafieux. Et donc, je pense que c'est une Tunisie qui a envie de vérité et d'égalité, et ça, c'est positif.
Donc, vous êtes plutôt contente de cette élection?
Je suis contente de voir les gens s'unir, vous savez, c'est pas toujours évident, et je suis contente de voir les Tunisiens en fait retrouver cette flamme qu'on avait perdue depuis la révolution. Donc ça permet en fait de construire et de justement être là, être éveillé.
Emel Metlouti, il n'y a que deux chansons en arabe dans votre dernier album qui vient de sortir, Everywhere We Look at What's Burning. Pourquoi?
En fait, normalement, il y en a trois. Mais il y en a un qui a été écarté et que j'espère partager avec le grand public au courant de l'année 2020. Une de mes plus belles chansons, d'après moi.
Mais alors pourquoi elle n'est pas dans le disque?
Parce qu'on a privilégié les rythmes moins lents pour le disque, mais du coup il reste donc deux titres en arabe. C'est les deux premier titre que j'ai écrit, en fait, que j'ai commencé à écrire au début du processus de la production de ce nouvel album. Mais je savais que je voulais faire un album en anglais. Donc je savais que... Et je voulais pas, en fait, retirer ces deux chansons. Je me suis dit, c'est ça, il faut que je sois moi-même avec mes identités multiples. Mais j'insiste quand même sur le fait que c'est un album en anglais et avec quelques accents Emel, quoi.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
جالت وحارت حطت عن نفسي
Amal Matlouti sur France Culture dans le réveil culturel avec cet extrait de votre dernier album Berouh, ça parle de l'âme, je suppose.
Voilà, ça veut dire de l'âme, quelque chose qui émane de l'âme. Mm-hmm. C'est le premier morceau en fait qui a été écrit, la toute première pierre apportée à ce grand édifice qui est cet album. Et ce qui a beaucoup mariné dans ma tête, c'est la tragédie de l'exode syrien. Et je voyais, j'avais cette image en tête d'une apocalypse et d'une marche de infini de gens qui sont en train d'échapper à un destin assez tragique. Et donc pour moi, cette chanson, en fait, c'est un peu le soundtrack de l'apocalypse. Et l'apocalypse, entre autres, c'est la nature qui est en train de nous poursuivre pour éradiquer cette espèce humaine qui n'a pas su prendre soin de sa source.
Alors, comment vous avez réalisé cet album, Amal Matlouti? Avec quel réalisateur? Avec quelle directive? Avec quelles envies?
Alors, il y en avait vraiment plein. J'ai commencé d'abord toute seule, ce que je n'avais jamais encore fait jusque-là. C'est-à-dire que je suis partie en résidence toute seule, en mode écriture, production, tout à la fois.
Au beau milieu de la forêt, ça c'est vrai, voilà. Ou c'est juste pour faire joli dans le...
Non, c'était à Woodstock, dans une petite cabane, vraiment au milieu de la forêt, où on voit des cerfs arriver tous les matins. Avec le silence, je pouvais entendre les petites voix dans ma tête.
Et vous avez enregistré, hein, d'ailleurs.
Donc pour moi, en fait, j'ai pas fait de séparation sur cet album, il n'y a pas eu phase d'écriture, phase de production, phase d'arrangement. Non, en fait, je suis vraiment allée à la recherche de l'idée, intéressante. Donc, j'ai fait une série de plusieurs résidences, d'abord toute seule, ensuite avec Amine Mentani, qui m'ont aussi mon coproducteur de le dernier album. Ensuite, avec Karim Atouman, qui est mon guitariste depuis plusieurs années. Ensuite, j'ai commencé à interagir sur Internet avec quelques producteurs, donc à distance, dont Ash Kusha, le producteur iranien et musicien fantastique qu'on voyait dans Les Chats Persans, le film. Et Steve Moore, qui a un duo de musique électronique, mais qui a vraiment été le magicien des synthétiseurs sur cet album, parce qu'à l'origine, mon idée, c'était de créer des instruments à partir de la nature. Et au final, on a enregistré beaucoup de sons de nature, mais on a beaucoup travaillé sur les sons et sur les nappes de clavier, parce que cet album, je le voyais vraiment aussi très vocal et très épuré. Et enfin, Ryan Seaton, qui vient en fait de la musique contemporaine et qui travaille beaucoup avec les compagnies de danse contemporaine, qui est un univers où je me ressource beaucoup. Donc ça a été le mélange de tous ces univers-là. Puis à la fin, j'ai réuni tout ce monde-là ensemble, peut-être malgré, contre leur gré, et j'ai essayé un peu de voir qu'est-ce que ça produit en fait quand tous ces esprits très éveillés et très talentueux peuvent faire quand ils sont ensemble. Et je suis vraiment très, très satisfaite du résultat.
Amel Betlouti, vous parlez aussi de poètes qui vous ont accompagné pendant l'élaboration de cet album. Alors, Rilke, ok, on le connaît, T.S. Eliot aussi, mais vous parlez d'un certain John Ashbery. C'est qui ?
C'est un poète américain, alors qui est extrêmement reconnu et respecté, qui est décédé, je crois, il y a 1 ou 2 ans, qui est extraordinaire et qui est surtout reconnu pour être très complexe et qui est beaucoup dans l'abstraction et qui est très difficile à comprendre. Et c'est mon mari qui m'a offert un recueil.
De poésie ou de texte ? Oh, de poésie,
voilà. Ouais. C'est de la poésie, mais c'est comme de la prose, en fait. Pour moi, c'était une révélation parce que je m'étais vraiment jamais mis à lire de la poésie en même temps que j'étais en train d'écrire et en même temps que j'étais en train de produire. Donc, c'était un peu comme mes talismans, ouais. Pour que ma tête soit toujours... Parce que quand même, c'était une grande responsabilité pour moi de me mettre à écrire en anglais. Et je voulais surtout pas le faire comme quelqu'un qui écrit assez bien pour quelqu'un qui ne parle pas l'anglais. Je voulais vraiment présenter quelque chose de poétique, d'intellectuel, pourquoi pas. Et donc je me rappelle, il y avait cette phrase que j'avais lue dans un de ses poèmes, enveloppée dans une identité comme un manteau. Et il y avait des centaines et des centaines d'expressions comme ça, cette force d'utiliser les mots, à créer ces images, cette puissance. Et c'est ça que j'ai essayé en fait d'aller dans ce côté lyrique et très imagé.
Parce que c'est vous qui écrivez, vous écrivez toutes vos chansons, Amel Betlouti.
Oui, là, pratiquement la plupart du temps. Je reçois des propositions, mais pour moi, le processus de la production musicale, pour moi, c'est un tout. Alors, je dis pas que je suis une grande parolière, une grande compositrice, mais en tout cas, c'est important pour moi que ce soit un tout.
Chanter est une bénédiction qui soulage de tous les maux. Quand on chante, on n'est plus terrestre, on s'ancre. Voilà ce que vous avez déclaré dans je ne sais quel journal d'ailleurs, mais j'avais retenu, j'avais inscrit ça dans mon petit calepin, Amel Betlouti.
Tout simplement, je pense qu'il n'y a pas une seule personne qui ne rêverait pas de chanter. Et je suis vraiment très reconnaissante d'avoir ce... Parce que c'est un grand pouvoir et c'est un grand exutoire. C'est, pour moi, c'est la chose qui me fait vivre. C'est la chose la plus belle au monde, de pouvoir chanter.
Ça y est, vos parents, ils ont accepté votre vocation. Ils sont heureux, ils sont contents de votre succès.
Ah oui, ma maman est ma plus grande fan de tous les temps. Et c'est très mignon et ça me touche beaucoup.
Le réveil culturel de Tufik Hakem est à retrouver sur franceculture.fr.
Merci Amel Betlouti d'être venu ce matin nous présenter, nous parler de votre dernier album. Everywhere We Looked Was Burning.
Merci à vous.
On se retrouve demain, et demain comme tous les vendredis, c'est l'actualité de la bande dessinée, et je serai avec Lamia Ziadeh, qui évoquera aussi bien le Beyrouth en guerre de son enfance que le Beyrouth en ébullition d'aujourd'hui, alors que les manifestations contre le régime politique s'intensifient. Bonne matinée sur France Culture. On reste sur des notes de votre musique. Vous voulez dire quelque chose, Amel Matlouti?
Ah, j'aime beaucoup ce que vous venez de dire sur le Liban.
Ouais.
Ils sont en train de nous donner une grande leçon d'humanité, de beauté, de musique, de poésie. Alors, en avant.
Merci.
Vous êtes sur France Culture. Dans un instant, les informations de 6h30. À suivre, le journal des idées de Jacques Munier et les enjeux internationaux de Julie Gacon. France Culture. L'esprit d'ouverture.
Les éditions Radio France présentent Les Sorcières, un livre de Céline Duchesnay. Comment le mythe de la sorcière a-t-il évolué à travers les âges? Fascinante et attirante pour certains, dangereuse et maléfique pour d'autres. Autrefois crainte et persécutée, aujourd'hui savante et indépendante. Une histoire de femme dont les pouvoirs dérangent. Les Sorcières de Céline Duchesnay, un livre illustré. Coédité par France Culture.
Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Feu vert pour la fusion entre PSA et Fiat Chrysler. Le conseil d'administration du constructeur français est d'accord. Et même les syndicats y sont plutôt favorables. Vous l'entendrez dans un instant. Nous reviendrons ensuite sur l'interview d'Emmanuel Macron dans Valeurs Actuelles. Le chef de l'État y parle immigration et religion. Et puis pourquoi Jair Bolsonaro menace la première chaîne de télévision brésilienne de lui couper les vivres? Nous irons à Rio de Janeiro lors de ce journal. Le conseil d'administration de PSA a donc donné son accord hier soir pour une fusion avec l'italo-américain Fiat Chrysler. En cas de succès de cette fusion, le futur groupe deviendrait le numéro 4 mondial, derrière Volkswagen, Renault, Nissan et Toyota, avec plus de 8,5 millions de véhicules vendus sous 11 marques différentes. Et pour Fiat Chrysler, ce mariage est synonyme de porte ouverte sur l'Asie, d'un meilleur ancrage européen et de moteurs plus puissants. Et pour PSA, c'est l'ouverture vers le marché nord-américain avec des véhicules haut de gamme. Une perspective plutôt bien accueillie par les syndicats à Sochaux, notamment Christophe Beck.
À Force Ouvrière, on veut croire à un rapprochement gagnant-gagnant qui déboucherait sur la naissance du quatrième constructeur mondial. Patrick Michel, secrétaire FO du comité de groupe Monde chez PSA.
Alors clairement, ça ouvre le marché américain, hein, où PSA est absent aujourd'hui. Et deuxièmement, ça permet aussi d'avoir une taille suffisamment importante face aux géants. Toyota notamment et Volkswagen.
FO qui va jusqu'à demander l'attribution d'un véhicule Fiat en fabrication dans la première usine du groupe à Sochaux. Mariage gagnant aussi pour Laurent Huxel de la CFE-CGC.
Un mariage comme avec Fiat et Chrysler, l'intérêt c'est qu'ils sont sur des plaques que nous on n'est pas. Après PSA aussi des longueurs d'avance sur l'activité moteur. On est quand même plutôt bien positionné sur tout ce qui est CO2.
Reste la question de l'emploi et des usines en France. Tout le monde s'accorde pour défendre les positions de PSA. À l'image de Jérôme Boussard pour la CGT de Sochaux, qui dresse un bilan plutôt négatif des dernières années.
Aujourd'hui, le groupe PSA fait 30 000 emplois sur 5 ans au moins. Donc on a peur que cette fusion ou mariage se traduise en perte d'emploi chez PSA.
Des syndicats de Sochaux méfiants ou enthousiastes, mais convaincus que les discussions vont aller assez vite vers une publication des bancs.
C'était Christophe Beck de France Bleu, Belfort Montbéliard pour France Culture. Dans le secteur ferroviaire à présent, l'heure n'est pas aux félicitations ou aux projets, mais à la discussion, tant bien que mal. Dans un contexte de grève multiple, les syndicats de la SNCF seront reçus ce jeudi par les ministres Jean-Baptiste Djebbari et Jean-Paul Delevoye, en charge des transports et des retraites. Il s'agira de discuter de la future réforme des retraites qui transformerait le régime spécial des cheminots en un système universel à points. Les critiques pleuvent à gauche depuis hier en direction d'Emmanuel Macron. Le président de la République est à la une ce matin du très droitier hebdomadaire Valeurs Actuelles. Une interview réalisée en fin de semaine dernière dans laquelle il s'exprime sur l'immigration, le communautarisme ou encore le voile, Stéphane Robert.
Dans cette interview, Emmanuel Macron revient sur la question du port du voile qui nous a beaucoup occupés depuis un peu plus de 2 semaines. Il explique que ce n'est pas une mère voilée dont l'enfant va à l'école et est intégré qui pose problème. Non, c'est plutôt le fait que certaines personnes qui ne sont pas intégrées utilise la religion pour se victimiser et pour provoquer la République. C'est ça, selon lui, l'échec de notre modèle d'intégration républicain. Il faut bien faire la différence pour le chef de l'État entre la pratique religieuse et l'utilisation de la religion à des fins politiques qui se traduit par un repli communautaire et une remise en cause des règles républicaines. Il défend par ailleurs sa politique en matière d'immigration et notamment la lutte contre l'immigration illégale. Quand j'arrive en 2017, les chiffres, dit-il, sont épouvantables en matière de reconduite à la frontière. Il affirme aujourd'hui avoir réarmé le dispositif, notamment en réduisant à 6 mois l'examen des demandes de droit d'asile, et dit avoir pour objectif de sortir tous les gens qui n'ont rien à faire là. Parallèlement, dans un en même temps très macronien, il explique que la France a toujours été une terre d'immigration et qu'il ne faut pas jouer les hypocrites. Les secteurs du BTP et de la restauration ne fonctionnent pas aujourd'hui sans l'immigration. Une question sur laquelle Emmanuel Macron refuse les discours simplificateurs afin de ne pas se retrouver, conclut-il, comme depuis 15 jours avec le débat sur le voile, pris en otage entre deux périls, le communautarisme islamique et le Rassemblement national.
Les acteurs économiques affectés par l'incendie de Lubrizol il y a un mois à Rouen vont commencer à percevoir des indemnisations d'ici la mi-novembre. Emmanuel Macron l'annonçait hier soir lors d'une visite à Rouen. Il y a assuré qu'un événement diplomatique d'ampleur internationale y sera organisé d'ici l'année prochaine, se voulant rassurant face à des habitants toujours inquiets du risque de pollution sur place. Compte rendu de cette visite d'Emmanuel Macron lors du journal de 7h. Mais d'ici là, à 6h34 et à un peu moins de 5 mois des municipales, nous nous penchons ce matin sur la stratégie de la France insoumise. Elle a investi un peu plus de 200 candidats, certaines figures notamment, comme Daniel Simonet à Paris, mais ce sont souvent des militants inconnus ou presque, et ils s'allient le cas échéant avec d'autres listes, Pierre Neveu.
Elle semble loin la dynamique de mai-juin 2017 pour la France insoumise. La déroute aux européennes du mois de mai a laissé des traces. Alors pour ce scrutin municipal de 2020, les insoumis ne se sont pas fixés d'objectifs chiffrés, expliquant qu'il est difficile pour une jeune formation politique de s'attaquer à des bastions et formations politiques implantées localement depuis longtemps. La stratégie est donc de soutenir des collectifs et des initiatives citoyennes. Et au cas par cas, des listes de gauche ou formations écologistes qui respectent des marqueurs obligatoires, telles que la démocratie participative ou la gratuité des cantines bio. Ainsi, à Grenoble et Toulouse, la France insoumise a décidé de rallier la liste Europe Écologie Les Verts. Mais il s'agit là de cas bien spécifiques, car bon nombre de militants écologistes ont décidé de conduire des listes autonomes. Autre situation, par exemple, à Marseille, la suppléante de Jean-Luc Mélenchon à l'Assemblée nationale rejoint une liste où l'on retrouve les différentes couleurs de la gauche, PS, Génération, PCF et Place Publique. Cela dit, les insoumis ne cachent pas leurs ambitions dans certains fiefs communistes, comme à Saint-Denis, en région parisienne, où deux listes issues de la majorité communiste France Insoumise se déchirent, rappelant le divorce du front de gauche avant la présidentielle, à tel point que les signataires d'une pétition appellent à l'unité à gauche. Officiellement, ces municipales serviront de laboratoire à la révolution citoyenne, mais derrière ces scrutins du mois de mars, c'est clairement l'objectif 2022 que prépare le mouvement de Jean-Luc Mélenchon.
Pierre Neveu, qui évoquait à l'instant Saint-Denis, le département de Seine-Saint-Denis attend ce matin des annonces de la part du gouvernement pour le soutenir et pour le dynamiser. Sont notamment prévues une prime de 10 000 euros pour fidéliser les fonctionnaires, le recrutement de 150 policiers ou encore le renforcement des contrôles des logements insalubres. Au Brésil, le président Jair Bolsonaro s'en est très violemment pris à la télévision Globo, la première chaîne du pays, allant jusqu'à la menacer hier après un reportage qui lui était peu favorable. Anne Vigna nous raconte la scène.
C'est une vidéo de 24 minutes postée sur les réseaux sociaux et qui a surpris tout le monde au Brésil. Le président Jair Bolsonaro insulte copieusement la première chaîne de télévision du pays, la télévision Globo, en perdant totalement son calme.
TV Globo, vous voulez attaquer le Brésil, c'est ça? Je sais qui vous êtes, des canailles. Ce journalisme que vous faites est pourri. Comme président, je vous le dis, il n'y aura plus d'argent public pour vous. C'est fini. Je ne vais plus vous parler. On ne parlera qu'en 2022 pour renouveler votre concession. Il n'y aura plus de passe-droit pour vous.
Emmanuel Colombier, directeur de Reporters sans frontières en Amérique latine, a immédiatement réagi aux propos du président.
Cette vidéo m'inspire de la désolation, mais surtout de l'inquiétude, parce que la virulence, là on parle vraiment d'insultes hein, du président contre le groupe Globo, est inégalée. C'est évidemment un encouragement à attaquer les journalistes et à dénigrer le travail de la presse, donc c'est très préoccupant.
La raison de la fureur présidentielle est un reportage qui montre que le nom du président est désormais cité dans l'enquête sur le meurtre de la conseillère municipale de gauche Marielle Franco, assassinée en mars 2018. L'un des assassins présumés vivait en effet dans le même lotissement que le président, et selon le portier, il se serait rendu quelques heures avant le crime chez le président qui lui était à Brasilia.
300 millions de personnes sont menacées d'inondations, seront menacées d'inondations d'ici 2050. Voici le chiffre et la carte du monde qui va avec, publiée dans la revue Nature. Une partie de l'Asie va notamment subir de plein fouet la montée des océans, Nathanaël Charbonnier.
Les cartes présentées par les chercheurs sont assez impressionnantes. On y voit en effet des régions entièrement recouvertes d'eau. Cela concerne la Chine, l'Inde, le Vietnam, l'Indonésie, la Thaïlande ou encore, de façon plus importante, le Cambodge et le Bangladesh avec des villes comme Dhaka ou Calcutta. On estime à 110 millions le nombre de personnes qui vivent dans des régions situées en dessous du niveau de la mer, donc particulièrement vulnérables, qui devraient faire face à des inondations permanentes. À cela s'ajoutent 250 millions de personnes qui se retrouveront tôt ou tard exposées à des inondations fréquentes, survenant au moins une fois par an suivant la force des tempêtes. L'un des aspects intéressants relevés par les chercheurs est que rien n'est totalement acquis suivant l'action de l'homme sur ses émissions de gaz à effet de serre. Le nombre de personnes qui pourraient se retrouver en difficulté pourrait varier considérablement entre 300 et 500 millions. L'Asie concernait en premier chef une certitude, mais la menace concerne aussi la France. 1 million d'habitants pourraient avoir les pieds dans l'eau d'ici 2050, avec des inondations qui concerneront l'ouest du pays, Gironde, Pays de la Loire ou encore la Charente-Maritime et les Hauts-de-France. Et même raisonnement que pour l'Asie, suivant l'action de l'homme d'ici 2100, le nombre de personnes touchées dans notre pays pourrait varier de 1,2 à 1,7 million de personnes.
En France métropolitaine, aujourd'hui jeudi, il n'est pas question d'inondations, mais d'averses nombreuses, avec 9 degrés ce matin à Strasbourg, 10 à Lille, 11 à Paris, 21 à Bastia. Bonjour Jacques Munier.
Bonjour Clara Le Coq-Réal.
À 6h40, c'est l'heure de votre journal des idées. Et à la veille du week-end de la Toussaint, voici Jacques, une invitation à porter sur la nature, le regard perçant de Greta Thunberg.
Oui, l'Obs publie un beau portrait de la jeune Suédoise par Naomi Klein, extrait de son livre « Plan B pour la planète, le New Deal vert » à paraître en novembre chez Actes Sud. Je cite « Les autistes ont tendance à interpréter les choses littéralement, aussi éprouvent-ils souvent des difficultés à s'accommoder, des dissonances cognitives, ces écarts qui existent entre ce que nous savons théoriquement et ce que nous faisons réellement, écarts si envahissants dans la vie moderne. C'est aussi leur super pouvoir, le mot est de Greta Thunberg, le pouvoir de se concentrer de façon très intense sur des centres d'intérêt précis, un mécanisme mental qu'on appelle aussi compartimentation. Pour notre salut commun, la jeune gréviste de l'école mobilisée pour le climat s'adresse aux grands de ce monde en relevant leurs contradictions à l'ONU, aux négociateurs de la COP24, au Forum économique mondial de Davos. Là, elle répondait aux riches et aux puissants qui lui tressèrent des couronnes pour leur avoir rendu l'espoir. « Je ne veux pas de votre espoir, je veux que vous paniquiez, je veux que vous éprouviez la peur que j'éprouve chaque jour, je veux que vous agissiez comme vous le feriez en cas de crise. » Et notamment de crise économique, car je cite encore, certains individus, certaines entreprises, certains décideurs en particulier savent exactement quelles valeurs inestimables ils ont accepté de sacrifier afin de pouvoir continuer à engranger d'énormes sommes d'argent. Et pour joindre la parole aux actes, au lieu de descendre dans l'un des hôtels 5 étoiles de Davos, elle a bravé des températures avoisinant les moins 18 degrés pour dormir dehors, sous une tente, emmitouflée dans un sac de couchage jaune vif. La chaleur, c'est pas trop mon truc, confiait-elle alors à Naomi Klein, laquelle, pour illustrer les constructions, les dissonances cognitives auxquelles nous nous shootons régulièrement et quotidiennement, évoque donc Naomi Klein l'espace étrange que la crise climatique occupe dans l'imaginaire collectif, avec tous ces brillants esprits qui développent des outils numériques toujours plus ingénieux, qui nous font tourner en rond et nous rendent toujours toujours plus dépendants de décharges de dopamine supplémentaires. Nous nous gavons de séries Netflix sur l'apocalypse zombie qui mue nos terreurs en divertissement et confirme tacitement que l'avenir connaîtra de toute façon une fin sombre et brutale. Dès lors, à quoi bon tenter d'éviter l'inévitable ? D'autant que prendre le changement climatique au sérieux impliquerait de modifier à peu près tous les aspects de notre économie, alors que de puissants intérêts veulent que les choses demeurent en l'état. Naomi Klein vise notamment les compagnies productrices de combustibles fossiles qui financent des campagnes de désinformation sur la réalité de ce changement. Pour le spécialiste de prospective Jeremy Rifkin, qui publie au lien qui libère le New Deal vert, la civilisation fossile va s'effondrer d'ici 2028. Dans la revue Oui Demain, il parle de troisième révolution industrielle. Selon lui, des milliards de dollars se dirigent vers le renouvelable et notamment les principaux fonds de pension qui gèrent l'épargne des futurs retraités américains qui ont assisté à la faillite de l'industrie du charbon et voudraient sortir leur argent du secteur fossile mais ne savent pas où l'investir faute de projets d'envergure. C'est là que les gouvernements doivent intervenir, affirme-t-il, Jeremy Rifkin. Ils doivent créer les infrastructures qui permettent le développement des renouvelables à grande échelle et ajoute, en évoquant une économie circulaire globale, la clé est surtout d'augmenter l'efficacité de nos activités, c'est-à-dire de réduire la quantité de matière et d'énergie que nous utilisons et de les réutiliser à l'infini. Emmanuel Pouy-Debat est spécialiste de l'évolution des comportements naturels au CNRS. Dans le livre qu'elle publie chez Odile Jacob sous le titre « Quand les animaux et les végétaux nous inspirent », elle cite quantité d'exemples de la capacité d'adaptation de la nature qui pourraient être imitées ou l'ont déjà été, comme ce TGV japonais au long nez aérodynamique qui reproduit la forme du bec du martin pêcheur, réduisant sa consommation électrique de 15% tout en augmentant sa vitesse de 10%. Des libellules aux nouvelles éoliennes et des matériaux de construction inclassables à la thermorégulation animale qui pourraient inspirer les techniques de régulation thermique. La nature, faisant en général un usage parcimonieux de l'énergie, tenter de limiter ouvre de nouvelles perspectives. La chercheuse conclut son livre en évoquant les leçons plus générales que nous pouvons tirer de l'observation de la nature. La première d'entre elles consiste à faire preuve d'intelligence collective. La coordination s'effectue sans contrôle central, il n'y a pas un cerveau pour tous et ce sont des décisions collectives et un travail de groupe qui permettent d'aboutir à la construction de structures complexes comme un nid, par exemple. Vous écoutez France Culture, il est 6h45, c'est l'heure des enjeux internationaux avec vous. Julie Gacon, bonjour.
Bonjour Jacques Munier, bonjour à tous.
Aujourd'hui, vous recevez le prix Albert Londres dans la catégorie audiovisuelle Marlène Rabault.
Oui, petite exception à nos usages qui veulent que nous invitions exclusivement des chercheurs dans les enjeux internationaux. À l'heure où des mouvements sociaux massifs se révèlent ces dernières semaines d'un continent à l'autre, il s'agit ce matin avec Marlène Rabault de raconter à hauteur d'homme cette fois et pas à pas l'histoire d'un mouvement qu'elle a suivi caméra à la main. C'est en République démocratique du Congo, en Afrique centrale, l'ancien Zaïre. Son film s'appelle Congo Lucha, du nom du mouvement Lutte pour le changement Lucha, qu'elle a suivi dans l'est de la RDC dès 2016 pendant 2 ans. Bonjour Marlène Rabault.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Il faut d'abord avec vous replacer Lucha, la lutte pour le changement, dans le contexte politique et social de la République démocratique du Congo. Quand vous commenciez à filmer en 2016, l'élection présidentielle approche, en tout cas en théorie.
Oui, effectivement. Il s'agit de la fin du second mandat de Joseph Kabila, qui a été élu pour la première fois en 2006 lors des premières élections démocratiques dans ce pays qui est indépendant depuis 1960. Et donc Kabila est un espoir pour une population qui vit dans la guerre depuis de nombreuses années. Et donc j'arrive en 2016 et je découvre ce mouvement, la Lucha. Ce sont des jeunes de 25 ans qui ont donc grandi avec ce président Kabila. Et ce président a fait la promesse de de ne pas déborder, de ne pas s'accrocher au pouvoir. Et ces jeunes jouent un peu sur cette naïveté en réclamant l'alternance politique. Et donc ils vont décider de descendre dans la rue, dans la non-violence, pour réclamer son départ et puis le respect de ses promesses.
Voilà, parce qu'il faut dire que la constitution a priori de la RDC ne permet pas un troisième mandat. Or, c'est bien un troisième mandat que Joseph Kabila s'apprête à honorer ou à briguer, puisqu'il était déjà président depuis 2000 ans. Il avait pris le poste après l'assassinat de son père, Laurent Désiré Kabila. Il trouve évidemment, comme ça arrive dans ces cas-là, une solution pour modifier la constitution. Et la Lucha, elle existe. Elle existe déjà, en fait, avant que vous n'arriviez en 2016, elle existe depuis 2012 de façon peut-être un peu plus embryonnaire et dénonce d'abord une situation peut-être sociale. Marlène Rabault, le chômage des jeunes, le manque d'eau dans un pays très riche.
Oui, c'est vraiment une grande injustice que vit le peuple congolais. C'est un pays grand comme quatre fois la France, qui a le deuxième plus grand fleuve en Afrique. C'est un fleuve qui pourrait fournir en électricité tout le pays et même une grande partie du continent africain. C'est aussi beaucoup de terres arables, c'est beaucoup de pâturage, et donc c'est une industrie, c'est un développement qui est encore à faire, et pourtant la population reste dans une économie informelle, la population vit avec moins de $2 par jour, donc c'est une extrême précarité. Et donc la Lucha apparaît en 2012 à Goma, dans l'est du Congo, donc à la frontière avec le Rwanda, et donc ces jeunes qui ont grandi dans la guerre vont commencer à réclamer de l'eau, de l'électricité, des routes, parce que c'est un pays qui n'est pas du tout desservi par des routes, et donc les gens sont prisonniers dans la plupart des grandes villes du Congo, et ils vont commencer à réclamer aussi de meilleurs soins de santé. Tout est à faire dans ce pays,
Oui, voilà, vous choisissez de filmer à Goma, dans l'Est où effectivement ce mouvement est le plus présent, la Lucha, dans l'Est où c'est un acte de bravoure que de manifester, parce que après 25 années de guerre, on est tout près, vous le disiez, de la frontière avec le Rwanda, les militaires sont très présents. D'ailleurs, dès les premières manifestations que vous filmez, l'armée intervient. Qu'est-ce que vous savez des jeunes que vous suivez pour, encore une fois, à échelle humaine, parler peut-être de l'un des organisateurs, de Luc ou de Espoir, ce jeune chroniqueur à succès qui rejoint le mouvement un peu plus tard?
Oui, ce sont des jeunes qui, effectivement, dès le départ, se constituent déjà en mouvement citoyen, ne veulent pas former de partis politiques ou d'associations, et donc ils prennent la rue dans un contexte où effectivement les jeunes ont plutôt tendance à prendre les armes. Et donc ils doivent vraiment prouver déjà à la population qu'ils sont non-violents, qui ne sont pas là pour renverser le pouvoir ou semer la zizanie. Et donc ils prennent la rue et font des actions citoyennes. Ils nettoient les rues pour montrer l'exemple, pour se faire connaître auprès de la population, par exemple. Et donc lors de leurs premières actions, lorsqu'ils vont vraiment commencer à demander l'alternance politique et qu'ils vont s'adresser au président Kabila, là, ils vont commencer à connaître vraiment une répression de la part des autorités, des arrestations, des emprisonnements, de la torture. Et un de mes personnages, Rebecca Kabuo, va être emprisonnée pendant 6 mois pour avoir demandé le départ de Kabila. Donc effectivement, Rebecca, c'est la plus jeune prisonnière politique au monde, et elle est l'une des rares femmes dans ce mouvement, parce qu'on est dans un pays où effectivement encore les femmes commencent tout juste à accéder à l'éducation dans les universités. C'est un début.
Donc les autorités commencent à prendre au sérieux et à craindre la Lucha, ses arrestations le prouvent et le montrent. Est-ce que vous avez assisté à des tentatives de récupération, de corruption? Est-ce que certains membres de la Lucha ont été approchés par des proches de Kabila pour tenter de les rallier à leur cause?
Oui, c'était justement en plus souvent un sujet de plaisanteries entre eux, et parce que les uns recevaient des appels de députés, de personnes parfois qu'ils préféraient, dont ils préféraient taire les postes, et donc on leur proposait des études, on leur proposait des postes, on leur proposait effectivement de l'argent, et eux toujours avec beaucoup d'humour répondaient, faisaient augmenter les enchères, réclamant des sommes incroyables pour leur départ. C'est vrai qu'il y a eu des tentatives aussi d'infiltration dans le mouvement pour essayer de dissoudre et puis de semer un peu la mésentente entre eux. Donc certains ont été exclus aussi pour avoir été soupçonnés comme ça de vouloir les séparer. Et donc parce que c'est un mouvement citoyen, donc c'est un mouvement ouvert, c'est-à-dire qu'il y a des réunions hebdomadaires et où tout le monde peut aller. Et donc c'est pas du tout un mouvement caché, c'est un mouvement qui se retrouve toujours dans des endroits publics. Et donc effectivement n'importe qui, tout le monde peut venir à ces réunions. Donc c'est difficile de savoir qui est qui.
D'ailleurs, toutes les manifestations et les arrestations aussi sont relayées sur les réseaux sociaux, ce qui donne un élan aux jeunes, peut-être dans tout le pays. Et pourtant, au bout d'un an, vous devez bien faire le constat que le succès ne vient pas. La Lucha compte 1500 adhérents dans un pays qui compte, lui, plus de 80 millions d'habitants. C'est le quatrième pays le plus peuplé d'Afrique, hein, la RDC. Et pourtant, au fur et à mesure, ils réussissent à se faire entendre à l'étranger. Des diplomates viennent les voir, ils sont reçus par l'Union européenne. Et c'est peut-être un tournant dans leur mouvement.
Oui, effectivement, c'est peu de victoires sur le terrain. Quand je les suis, c'est toujours très difficile pour les militants de la Lucha de voir qu'effectivement la population reste chez elle, ne sort pas dans la rue, ne vient pas les accompagner pour réclamer leurs droits. Et pourtant, c'est un changement qu'ils espèrent de la population, de vaincre cette peur. Et donc, effectivement, ce sont des diplomates qui viennent rendre des visites officielles au Congo dans cette période de crise politique, donc aux officiels, à Kabila, aux opposants, et à la société civile, et même à la Lucha, puisqu'ils sont aussi sensibilisés au fait que ce sont des jeunes, des mouvements qui sont touchés par la répression. Et donc... suite à ça, il y aura la demande aussi de la part de la Lucha de sanctions contre les autorités congolaises pour avoir retardé le processus électoral, pour avoir réprimé les manifestants. Et donc ces sanctions vont arriver à un moment où la Lucha effectivement peine à se faire entendre de la part de Kabila.
Voilà, cette implication européenne notamment lui redonne de l'élan, mais votre film, Marlène Rabault, se termine sur les restes encore fumants d'une maison qui vient de s'écrouler, la maison de Luc Nkululula, qui est le est-ce qu'on peut dire le leader, c'est pas le leader, mais l'une des figures phares, voilà, un des fondateurs de la Lucha. On est en juin 2018. Est-ce que depuis il y a eu une véritable enquête indépendante sur les circonstances de sa mort, comme l'ont alors demandé ses camarades de la Lucha?
Non, il y a eu une enquête de 24 heures par la police qui a conclu à un incendie accidentel de sa maison. Pourtant, il y a beaucoup d'éléments qui font penser que c'est plutôt criminel. Donc, il y a peu de doutes, je pense, de la part pour les militants de la Lucha et pour tout son entourage sur le fait que Luc Nkululula était un militant exceptionnel, hors norme, très inspirant, charismatique. Et je pense qu'il commençait vraiment à faire peur.
Merci beaucoup.
Il était, je crois, au Congo, quand on lève la tête comme ça, si on la lève un peu trop, on peut se la faire couper. Et malheureusement, il n'est pas le premier des militants et des défenseurs des droits de l'homme à disparaître dans ce pays.
Merci beaucoup, Marlène Rabault. Il faut voir votre film Congo Lucha. On pourra le voir dès demain sur le site internet de Télérama jusqu'à dimanche, et venir aussi bientôt une diffusion sur France 2. Merci, Marlène Rabault, d'avoir été avec nous ce matin.
Merci beaucoup.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
France Culture présente la rétrospective Jean Giono. À la veille des commémorations du cinquantenaire de sa disparition, le MUCEM lui consacre une grande exposition. À travers un dialogue entre ses manuscrits rassemblés pour la première fois dans leur quasi-intégralité, et près de 300 œuvres et documents écrits et filmés. Redécouvrez la figure de Giono, dans toute sa noirceur, sa force et son universalité, dans un parcours alternant l'ombre et la lumière. Exposition Giono, jusqu'au 17 février, au Mucem à Marseille. Un partenariat France Culture.
Vous écoutez France Culture 6h57. Bonjour Guillaume Erner.
Bonjour Julie Gacon, bonjour à toutes et à tous.
Votre humeur du jour. Ah non Guillaume, vous ne pouvez pas encore parler du voile.
Ben oui, tout ou presque a été dit sur cette fichue polémique. Fichu sur la tête ou voile, c'est vous qui déciderez. Alors vous allez reprendre la liste de tous ceux qui se sont exprimés, des politiques tant que vous voudrez, des journalistes, des polémistes. Parfois la frontière est difficile à situer. Normal, les commentateurs commentent, les femmes en question, on les a peu entendues, mais là aussi, en France c'est normal, les acteurs dans les films... Ça ne nous intéresse pas, ce qui nous fascine, ce sont les critiques. Et puis, il y a une catégorie de Français qui n'a pas du tout été entendue, ce sont les profs. Alors là, je vous arrête tout de suite, j'entends bien que chaque catégorie de Français n'a pas vocation à dire la loi sur le pan de réalité qui la concerne, sinon les motards, je suis motard, auraient pour tâche de fixer les limites de vitesse, et là, bien sûr, on rigolerait. Mais à aucun moment, les profs, qui sont pourtant au premier chef concernés par les sorties scolaires, n'ont été consultés sur la manière dont il faudrait évoquer cette question, évoquer la question des accompagnatrices de sorties scolaires. Considèrent-ils ces femmes comme une grave entrave à la laïcité ? Pour en avoir parlé avec quelques enseignants, j'ai plutôt l'impression que ce qui pose déjà problème, c'est de trouver des parents qui acceptent d'aider les profs pendant les sorties scolaires. La chose n'est pas si courante et finalement, à chaque fois qu'il y a visite de ferme ou d'usine, pour trouver un parent volontaire, c'est la croix et la bannière qui posent problème, bien plutôt que le voile, désolé, j'ai pas pu m'en empêcher. Alors le fait que les profs ne soient pas entendus, alors même que cette profession ne peut pas être considérée comme le vecteur du théologico-religieux en France, c'est le signe, une fois de plus, du mépris dans lequel on les tient. On s'étonne que l'école soit un lieu de malaise en France, mais en réalité, on fait tout pour qu'il le soit, parce que l'on veut y projeter tous les problèmes de la société. Idéalement, il faudrait évacuer les enfants des écoles et proposer aux adultes de s'y installer, par exemple dans les cours de récréation.
7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner.
Allez, si je vous dis 3 anneaux pour les rois elfes sous le ciel, 7 pour les seigneurs nains dans leur demeure de pierre, 9 pour les hommes mortels destinés au trépas, bien entendu, c'est ainsi que débute le Seigneur des Anneaux de Tolkien, son monde merveilleux. Une exposition lui est consacrée à la Bibliothèque nationale de France. Et je suis très heureux de vous permettre de vous réveiller avec Tolkien et son Seigneur des Anneaux. En attendant, il est 7h, joyeux réveil à tous, même si vous n'habitez pas la comté.